Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Roc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. L'information, ça vous intéresse? L'univers des journalistes, ça suscite votre curiosité, votre agacement? Nous allons en parler aujourd'hui avec Dominique Anthony, le nouveau président du Club de la presse Occitanie. Dominique Anthony, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je le dis au passage, je suis votre lointain successeur, puisqu'il y a longtemps, de 1987 à 1989, j'ai présidé le Club de la presse, alors seulement de Montpellier. Diplômé de Sciences Po Paris, vous avez débuté dans la presse quotidienne régionale, et plus exactement dans quels journaux ?
Exactement, le Provençal, où j'ai travaillé à l'époque où Gaston Defer était un grand patron de presse, très dur d'ailleurs, très très dur avec ses journalistes, et j'ai été longtemps pigiste et mal payé d'ailleurs. Et donc j'ai beaucoup appris sur cette période, c'était à Bastia, pendant une période un peu compliquée, un peu difficile. Et ensuite après j'étais correspondant du journal Le Monde à partir de 81, avant l'arrivée de la gauche au pouvoir, je le précise. Et ensuite après je suis rentré, j'ai fait de la radio à partir de 83.
Voilà, donc un parcours successif, bon, en Corse d'abord, à Radio Corse Fréquence à mort, puis dans le réseau de France Bleu à Valence, Montpellier, Orléans, Strasbourg et Nice, donc, qui vous a permis d'acquérir une vision diversifiée du journalisme, de l'information en région.
Et des territoires.
Voilà. Et de la radio, puisque quand on est directeur d'une station de France Bleu, on pilote à la fois, avec bien sûr des directeurs en chef et un directeur des programmes, à la fois l'info et les autres parties de la programmation, les programmes.
Alors il m'est arrivé à Nice, j'étais à la fois rédacteur en chef et directeur. C'est-à-dire que je faisais aussi de l'antenne régulièrement et je faisais tous les jours la conférence de rédaction qui est, vous le savez, le nec plus ultra pour décider des sujets qui vont être traités dans la journée.
Très bien. Alors, pour rester sur ce chapitre, qu'est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers le journalisme? Quel était, je dirais, le moteur de cette orientation?
Écoutez, je vais vous dire, c'est le hasard et la nécessité, c'est-à-dire que j'avais décidé avec mon épouse que nous allions rentrer en Corse après avoir fait Sciences Po Paris, elle et moi. Et donc, j'ai cherché du travail à Bastia. Et je suis rentré dans le journalisme par la petite porte. Finalement, c'est peut-être la meilleure, hein, je vais vous dire. J'ai pas fait d'école de journalisme, mais je pensais avoir suffisamment d'éléments au niveau de la culture générale pour devenir un journaliste correct. Et j'ai progressé comme ça. J'ai travaillé dans beaucoup de médias. J'ai travaillé aussi dans une radio qui était une radio interdite à l'époque, puisque nous émettions de l'Italie. J'ai fait de la radio en direct de l'Italie vers la Corse.
Avant 81, donc.
Avant 81, quand les ondes étaient brouillées par TDF, puisque nous avions des émetteurs en Italie, comme une radio périphérique. Ça s'appelait Radio Corse Internationale. Et l'émetteur a été plastiqué à l'époque par les barbouzes. Enfin, moi, c'était une situation assez, assez difficile. Bref, j'ai effectivement roulé ma bosse, d'une part, au niveau des médias et aussi au niveau des territoires, au niveau des régions. Et ça, je crois, on va en parler.
Très bien. Alors, avant de parler de ça de manière plus fine, vous allez d'abord nous raconter votre Montpellier. Donc, je vais vous prier à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier que vous aimez particulièrement, pas nécessairement les plus connus?
Alors, dire d'abord que Montpellier n'est pas ma ville.
Oui,
c'est une ville d'adoption.
Depuis
Mais
plusieurs
c'est
années.
Une ville, voilà. C'est une ville où finalement j'ai eu deux périodes extrêmement fortes. Une première période entre 88 et 92, donc c'est une période où j'étais directeur de France Bleu Hérault. C'était la période, la grande période de fraîche, rappelez-vous, les auditeurs s'en rappellent, pour les plus anciens, c'était les grands chantiers, c'était Antigone, c'était cette idée forte qu'il fallait maîtriser la ville et la reconstruire, ou plutôt la construire, puisqu'elle changeait complètement d'échelle. Ça, c'était le premier Montpellier. Et le deuxième Montpellier, je l'ai retrouvé en 2013-2014, où je suis revenu vivre à Montpellier, effectivement, avec mon épouse, puisque, et c'est là que je vous rejoins, on avait fait le choix de revenir à Montpellier. Montpellier, pourquoi ? Parce que il y avait deux villes en concurrence. Je vais tout vous dire, hein, je vais faire cette confidence à nos auditeurs. Il y avait deux villes en concurrence. Il y avait Nice et Montpellier.
Nice, que vous connaissiez.
Nice, où j'ai agi, où j'ai été directeur de France Bleu Azur pendant 8 ans. Nice qui est proche de la Corse, mais Nice qui a, je vais vous dire, une mentalité très différente de celle de Montpellier. Et je ne me sentais pas totalement à l'aise dans cette mentalité un peu bling-bling de Nice. Je trouvais que Montpellier était beaucoup plus proche de mes valeurs, de mes idées et de ma façon de vivre. Voilà pourquoi nous sommes venus à Montpellier. Et alors, pour répondre à votre première question, où je suis à l'aise à Montpellier ? C'est vrai que j'ai choisi de vivre à Antigone, j'ai eu cette chance. C'est un quartier qui me plaît beaucoup, je le trouve juste. J'ai vécu cette période et j'ai un petit souvenir qui est le suivant. C'est que j'avais organisé sur France Bleu Hérault une confrontation entre Fraîche et Jean Ferrat, qui était venu à l'époque, puisque nous avions une émission avec lui. Et il y avait eu un échange sur Antigone, sur le fait qu'il y avait à Antigone notamment des appartements, il y avait des appartements sociaux, si je puis dire. Il y avait une volonté de faire qu'Antigone ne soit pas un quartier de riches. Et ça avait été très intéressant, cet échange. Et Antigone, je l'ai retrouvé vivant, pleinement vivant, alors qu'au départ, c'était un pari qui n'était pas forcément gagné. Donc Antigone numéro 1, puisque j'y habite et j'y suis très heureux. Ensuite, après tout ce qui est les nouveaux quartiers, Port-Marianne, j'étais dernièrement à Port-Marianne autour de ce grand bassin, je trouvais qu'il y avait une mixité sociale là qui était véritablement une réussite, en tout cas de visu, je trouvais que c'était vraiment un bon lieu d'intégration. Ensuite, après, quels sont les lieux que j'aime ? Oui, j'aime.
Peut-être un lieu moins connu, là.
Moins connu. Alors, non, voilà, effectivement, moins connu. Je vais vous dire, moi, ce que j'aime à Montpellier, ce sont les petites rues où je me perds, où je fais semblant de me perdre dans l'écusson. J'aime aussi, je vais vous dire, un lieu où on ne va pas beaucoup et pourtant qui est très agréable, c'est le jardin méditerranéen du Moco. J'aime bien le Moco. Je trouve que c'est un lieu apaisant, qui est agréable. Et puis, j'aime bien aussi sortir un peu de Montpellier. Et notamment, je vais du côté des Grisettes aussi, qui est un endroit intéressant. Et puis après, je vais au marché des Arceaux, qui est un marché absolument magnifique. Donc, j'ai ces lieux-là. J'en ai d'autres, mais je me balade.
Ce sera pour une autre fois.
Alors, mon avantage, c'est que je peux me balader et je me balade à vélo. Donc, ça veut dire que je vais très vite d'un lieu à un autre.
Très bien. Alors, on va en venir quand même au vif du sujet qui nous rassemble aujourd'hui à ce micro. Le Club La Presse a fêté ses 40 ans, là, au mois de juin. Comment le définir en quelques mots, hein, je veux dire, pour que les auditeurs comprennent ce qu'est cette association et dans quelle trajectoire elle s'est inscrite donc pendant ces 4 décennies.
Alors d'abord dire à nos auditeurs, parce qu'ils ne le savent pas, que le Club de la Presse aujourd'hui d'Occitanie est un des plus grands clubs de la presse de France, avec le Presse Club à Paris, avec le Club de la Presse à Strasbourg, mais il est lui adossé aux institutions européennes. J'ai vécu 10 ans à Strasbourg, effectivement, j'étais au Club de la Presse de Strasbourg aussi. Et c'est donc un club fort, un club puissant, dans la mesure où il a plus de 1200 adhérents. On parlera tout à l'heure de cette biconstruction de ce club. Il a 40 ans de vie, il a 4 salariés et il a pignon sur rue, effectivement, sur la place du Nombre d'Or à Antigone. Donc, c'est vraiment une force qui compte, une force qui va. Ça, c'est le premier point. Le choix que vous avez fait, parce qu'Alain Doudias, il est très modeste, mais il fait partie des créateurs.
Ah oui, des 5.
Des 5 créateurs, oui. La bande des 5. Vous en étiez à Alain. Et donc, félicitations d'avoir eu cette intuition, qui n'est pas commune, d'avoir créé à Montpellier un club de la presse. Donc, ce club de la presse, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a plusieurs fonctions. C'est d'abord un lieu d'échange, bien sûr, un lieu de partage, un lieu de défense et de réflexion sur l'évolution des métiers de la communication et du journalisme. Ça, c'est les fondamentaux. Ensuite, après, quand on rentre dans le détail, mais on y rentrera peut-être, il offre des newsletters, il offre des formations permanentes, il offre un magazine trimestriel, il offre un annuaire, et il est constitué notamment de commissions, et on rentrera peut-être effectivement dans le détail tout à l'heure.
Très bien. Alors, vous l'avez évoqué, le club a pour caractéristique de rassembler deux professions ou deux ensembles de professions, les journalistes et les communicants, qui sont, bon, chacun le sait, qui peuvent avoir des points de vue ou des pratiques divergentes, hein, sans référence à notre radio. Et comment expliquer ça ? Comment le justifier ? Peut-être parce que c'est parfois l'objet de critiques.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai vécu les deux situations. À Nice, par exemple, il est clair que les journalistes de Nice n'acceptaient pas que les communicants aient un rôle dans le club de la presse. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut avoir en tête que les communicants sont là pour valoriser leurs clients. Ils ont des clients. Et les journalistes sont là pour traiter de l'information et ne doivent pas rentrer dans les intérêts stratégiques des différentes boîtes que les communicants, par définition, sont là pour valoriser. Donc, quand on a dit ces choses-là clairement, au fond, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle, et la particularité du Club de la presse de Montpellier, à mon avis, c'est qu'au départ, ces deux professions qui pouvaient être considérées comme antagonistes ont réussi à travailler ensemble sur un certain nombre de projets communs. Et ça, c'est aussi votre réussite, c'est la nôtre aujourd'hui. Et Esprit Critique est exactement, je crois, ce point où nos deux professions, qui sont différentes, ont réussi à travailler ensemble. On parlera d'Esprit Critique simplement, et je veux dire aux auditeurs que là, sur un projet ensemble commun, on avance du même pas les journalistes et les communicants pour justement faire connaître à la fois aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs aujourd'hui la question de la fabrique de l'information, etc. Donc il y a des points de convergence. Il y a des points de convergence et on les a privilégiés.
Il y a aussi quand même un partage du pouvoir, je dis, ou de l'organisation du CLEM qui laisse aux journalistes.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, faut le dire.
Il faut le dire. Alors d'abord, le président doit être journaliste. Il faut le dire. Au niveau du conseil d'administration, qui est au fond l'assemblée délibérante du club, les journalistes sont très largement majoritaires. Et au niveau du bureau, ils ont aussi la majorité, notamment avec deux vice-présidences et le président. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Mais ça, c'est vraiment, je pense, de la cuisine interne. Mais globalement, le club de la presse reste le club de la presse. Il n'est pas le club des communicants. Regardez, par exemple, à Toulouse, vous avez deux clubs différents, deux associations différentes. Il n'y a pas en termes d'efficacité, excusez-moi, mais en termes d'efficacité, le résultat n'est pas là. Le résultat n'est pas là. C'est qu'ils se regardent en chien de faïence, je pense. Et en fait, il y a un microclimat favorable à Montpellier sur ce thème-là. Et je pense que c'est une des forces aussi du club de Montpellier.
Alors, je le dis au passage, le club, je l'ai indiqué concernant ma propre contribution, s'appelait Club de Montpellier, puis Club du Languedoc-Roussillon et puis Club Occitanie. Quand les deux régions ont fusionné, dans le club, s'est étendu et bon, d'ailleurs se développe peu à peu du côté de Toulouse.
Alors ça, c'est une réussite. C'est une réussite qui n'était pas du tout acquise au départ. Parce que, vous le savez, aujourd'hui, la région, elle est principalement à Toulouse. Puisque, l'organisation même de cette région est toulousaine, physiquement toulousaine. Même si Carole Delga, à travers son travail, a voulu équilibrer les choses, c'est Toulouse. Eh bien, là où nous avons aussi réussi ce pari-là, c'est précisément que nous avons réussi à investir Toulouse dans la mesure où Toulouse aujourd'hui est co-responsable du club avec des vice-présidents, avec des activités très importantes à Toulouse. Et aussi, je crois, parce que nous avons comblé un vide. Il y avait un vide à Toulouse à ce niveau-là que nous avons su combler. Donc c'est aussi une des réussites du club, à mon avis, une des principales réussites de ces trois dernières années, après la situation très compliquée du Covid, bien sûr, que nous avons tous vécu douloureusement.
Alors, vous avez évoqué esprit critique, critique TIK.
TIK, oui.
Alors, de quelle analyse cette initiative qui n'est plus marquante et qui est précisément tournée vers l'extérieur, de quelle analyse procède-t-elle? Quels phénomènes ont conduit à lancer l'esprit critique?
Alors c'est tout simple. D'abord, esprit critique, vous avez raison de le signaler, au départ ne s'appelait pas esprit critique. C'est au fond quelque chose que nous avons trouvé qui est fort. Au départ, cela s'appelait jeunes, médias et citoyenneté. Et en sous-titre, c'est « Jeunes, médias et citoyenneté ». Esprit critique est né du choc de Charlie. 2015, Charlie souffre. Charlie a été assassiné, ou du moins ses animateurs, ses journalistes. Et là, nous décidons de faire quelque chose. Parce que nous savons bien, nous, que tout le monde n'est pas Charlie. On le sait bien que tout le monde n'est pas Charlie. Et donc là, pendant un an, on cogite, on travaille avec l'éducation nationale aussi pour mettre en place un dispositif. Ce dispositif, il est composé d'interventions de 2 heures en moyenne et nous intervenons dans les classes et nous intervenons toujours en binôme. Un journaliste, un expert en réseaux sociaux. Parce que nous savons bien que les jeunes, certes, doivent entendre ce que nous avons à dire au niveau du journalisme, mais surtout aussi, nous devons utiliser les canaux qu'ils utilisent. Et donc, nous demandons à des experts en réseaux sociaux que nous avons au sein du club d'intervenir avec nous. Il y a 2 légitimités qui avancent côte à côte. C'est ça la force d'esprit critique. C'est ça son originalité. Je vais beaucoup dans les réunions où on parle effectivement de l'éducation aux médias, de tout ce qu'il faut faire, comment on apprend à faire un journal, etc. etc., etc. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais nous faisons autre chose et nous le faisons mieux, je pense, que les autres, sans vaine ostentation. Mais nous le faisons parce que nous avons beaucoup travaillé sur le public que nous devons toucher. Donc on intervient... Nous intervenons dans les collèges, dans les lycées de l'ensemble de la région. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous en sommes à 8600 personnes touchées. Nous avons élargi nos interventions, notamment auprès des seniors. Nous intervenons aussi à travers les CCAS chez les seniors parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Ça, c'est récent, c'est plus récent.
Ça, c'est récent. C'est récent parce qu'il y a vraiment un besoin. Les fake news, les seniors, les colportent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est dramatique vis-à-vis des petits-enfants, etc. Et nous intervenons aussi dans des zones de privation de liberté. Nous intervenons notamment dans le cadre de la PJJ. Nous intervenons aussi... dans d'autres domaines où il y a des jeunes. Donc on nous demande d'intervenir, par exemple aussi on intervient dans les médiathèques où il y a à la fois des publics différenciés. Donc on s'adapte. La force d'esprit critique, c'est aussi qu'il y a une sorte de structure d'intervention et ensuite après on actualise, on modifie en fonction du public donné. Donc c'est un outil très, très malléable et à la fois très, très, très fort parce que précisément il a des fondamentaux qui eux ne varient pas. Les fondamentaux, je vous l'ai dit tout de suite, c'est d'abord le débat mouvant pour que effectivement les gens se positionnent. Est-ce que effectivement les journalistes racontent n'importe quoi? Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Ensuite, après, il y a le vrai faux avec des photos, des vidéos qui sont montrées. On leur demande de décrypter le vrai faux. Ensuite, après, on aborde la question des fake news qui est centrale. Ensuite, après, nous abordons la question notamment des théories du complot. Et enfin, nous terminons notre intervention par ce que nous appelons le fact-checking des journalistes qui est mettre à l'honneur la vérification des faits en français. Parlons français. La vérification des faits en français et aussi le fact-checking, la vérification des faits en tant que toi, en tant que vous, auditeurs, citoyens, vous pouvez aujourd'hui, avec les moyens qui sont les vôtres, vérifier les faits grâce notamment à l'informatique et grâce aux outils que nous avons à notre disposition.
Alors, vous avez évoqué, le déport vers les réseaux sociaux, vers des formes d'écoute, hein, notamment de la part des jeunes. le discrédit persistant à l'égard des journalistes, hein, analysé depuis des années, mais qui est toujours là. Et il y a aussi un autre phénomène qui a marqué, je dirais, l'offre d'information au sens large, ce sont les influenceurs. Là aussi, est-ce que ça a été, ce phénomène-là, très marquant, un des aiguillons, je dirais, qui a conduit le Code de la presse à s'engager résolument et de manière ordonnée dans cette voie-là de l'éducation aux médias et à l'information?
Oui, parce que, si vous voulez, Esprit critique démarre en 2016. On est en 2024. En 8 ans, il s'est passé des choses monumentales. Tout a changé, ou presque tout a changé, ou du moins, il y a 2 choses qui apparaissent. Parce que Esprit critique, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous écoutons les jeunes et nous leur disons, voilà, nous, on vous propose des outils. On vous propose des outils. Et nous constatons, les écoutant, qu'il y a 2 phénomènes majeurs que nous percevons, nous, au niveau du terrain. Hein, on ne théorise pas, là. On est au niveau du terrain. Le premier phénomène majeur, c'est la désaffection des nouvelles générations pour la presse. Ce que nous, notre génération, appelons la presse. La PQR, la presse quotidienne régionale, les hebdos, les médias. Je ne parle pas seulement du papier, je parle de tous les médias. Premier élément, désaffection de cette population pour s'informer par rapport à cette presse-là. Deuxième élément qui nous touche beaucoup, c'est la mise en doute du bien fondé du travail journalistique. Et ce fait qu'aujourd'hui, au fond, le travail journalistique est totalement banalisé, il est déconsidéré. Et surtout, il est remplacé par l'offre orientée, selon nous, des influenceurs et des influenceuses qui prennent le pas sur l'information vraie des journalistes. Et ça, c'est véritablement, me semble-t-il, dramatique. Dramatique pour notre société démocratique.
Alors, bon, chacun pourra rebondir là-dessus. Alors, le temps avance. Donc, comme vous le savez, il y a quelques jours, les radios associatives, comme disait Avance FM, ont exprimé une grande inquiétude. Dans le projet de budget de l'État, le soutien du ministère de la Culture était amputé de 29%. Il représente en moyenne 40% des ressources de 750 de ces radios. La mobilisation des radios est celle de nombreux élus des territoires, en particulier au sein de la Commission des affaires culturelles de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, a conduit le gouvernement à reculer. La coupe prévue dans les subventions aux radios associatives a été annulée. Alors, vous avez effectué un parcours, on a dit, dans les radios de service public. Que pensez-vous de cette affaire et plus généralement de la place des radios associatives en France dans l'offre de radio telle qu'on pourra l'envisager ou l'examiner dans notre pays?
Moi, je pense qu'elles sont absolument indispensables. Je pense qu'effectivement, les radios de catégorie A, c'est-à-dire non commerciales, associatives, qui sont un maillage sur le territoire absolument nécessaire, sont réellement indispensables. Et je veux ajouter que, effectivement, le Club de la presse était prêt à se mobiliser là par rapport à cette situation de réduction drastique des financements. Et puis il se trouve que l'épilogue de cette, en tout cas l'épilogue pour le moment provisoire, mais épilogue quand même, fait que...
Oui, ça s'est réglé en quelques jours.
Les financements sont revenus. J'ajoute, pour montrer que ma volonté n'est pas seulement théorique, c'est que moi-même, quand j'étais directeur de France Bleu et Hérault, j'ai travaillé main dans la main avec Radio Pays d'Hérault et le sénateur Delfaux à l'époque, pour faire en sorte qu'il y ait des ponts entre la radio de service public que je représentais et les radios associatives. Donc vraiment, je suis un partisan de ces radios-là. Et puis aussi, il y a cette nécessité d'avoir une pluralité, un pluralisme d'opinion, un pluralisme démocratique. Et ça, j'y suis d'autant plus attaché parce que aujourd'hui, vous l'avez vu vous-même, parce que vous êtes un fin analyste de la situation, vous avez vu les états généraux de l'information, le droit à l'information est fortement menacé aujourd'hui en France. L'espace public, désormais, est totalement, j'allais dire, polarisé par une force nouvelle, celle des algorithmes. On en a parlé tout à l'heure. Les journalistes sont en proie à la paupérisation et à la dévalorisation. Et la désinformation, aujourd'hui, elle tue. Elle tue à petit feu nos démocraties. Et l'enjeu, il est là, aujourd'hui. Hein. L'enjeu, il est que nos démocraties, aujourd'hui, sont très largement secouées comment dirais-je, elles sont à la fois secouées et affaiblies par les fake news, par la désinformation massive que nous subissons.
Alors, deux mots pour dire rapidement qu'est-ce que c'était que ces états généraux de l'information. Ils ont été lancés par le président de la République lui-même en octobre 2023 et en septembre dernier, après beaucoup de consultations citoyennes, d'auditions d'experts, de contributions institutionnelles, les états généraux ont rendu leurs conclusions, que ça balaye un certain nombre de sujets, vous en avez évoqué un. Il y en a peut-être un autre, donc, en identifiant un mot, parce qu'il structure aussi les conditions dans lesquelles l'information parvient aux Français. C'est la structuration économique des médias, avec des phénomènes de concentration. Ça existait déjà, hein, il y a eu des concentrations dès les années 60, notamment dans la PQR. Mais cette concentration qui peut constituer, ou qui constitue dans certains cas, des menaces sur le pluralisme, quelle analyse en faites-vous? Et peut-être aussi, là, ce sera probablement une de mes dernières questions, quel est selon vous le rôle des auditeurs, téléspectateurs ou internautes dans cette bataille, parce qu'on peut la dénommer comme ça, pour que dans notre pays, l'information ait sa juste place dans la vie commune?
Alors, quand vous parlez de concentration, soyons clairs, donnons des éléments plus précis. 11 milliardaires aujourd'hui détiendraient 80% de la presse quotidienne, 60% de la presse, de la part d'audience en télévision et un peu moins de 50% au niveau de la radio. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ben, il faut, j'ai envie de dire, militer avec ses oreilles, militer avec ses yeux. Il faut tourner le dos à ces chaînes ou ces journaux qui sont effectivement contrôlés par ces milliardaires. Toutefois, il faut voir que ça n'est pas parce que ces milliardaires détiennent ces journaux que les journalistes sont des fantoches qui font un journal totalement à la solde ou à la volonté de ces personnes, de ces milliardaires. Ce serait quand même un peu simplifier les choses que de prétendre que les journalistes sont pieds et poings liés. Il faut aussi respecter les journalistes, mes confrères. Ils sont libres aussi. Alors, ils sont libres dans un cadre, dans une ligne éditoriale qui peut être resserrée, ça c'est sûr. Mais je veux dire, il faut aussi défendre les journalistes qui travaillent dans ces journaux.
Donc l'indépendance des rédactions.
Alors l'indépendance des rédactions, c'est quoi? C'est effectivement le fait que les rédactions prennent le pouvoir à travers toute une série de règles juridiques qui leur permet de maîtriser, comme par exemple au journal Le Monde ou dans d'autres journaux, de maîtriser la ligne éditoriale.
Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. On voit qu'on pouvait le poursuivre, vous et moi, plus longtemps. Et donc, dernière question, je la pose souvent à mes invités. Quelle est l'idée reçue, l'idée fausse, hein, sur ce qu'est le journalisme, ce que sont les journalistes réellement, que vous rencontrez, qui vous exaspèrent et que vous efforcez d'évacuer?
Alors, l'idée fausse, c'est que d'abord, les journalistes sont vendus au pouvoir, sont pieds et poings liés, ils sont à coquiner avec le pouvoir, qu'il y a des liens perpétuels.
Pouvoir politique et pouvoir économique.
Non, c'est pas vrai. Il y a quelques personnes qui peut-être effectivement sont dans les cercles du pouvoir, mais l'essentiel des journalistes, ce sont des artisans de l'information. Ils sont sur le terrain et ils essayent de faire le meilleur travail qui soit, me semble-t-il, par rapport aux contraintes qu'ils rencontrent aussi et aux pressions qu'ils subissent aussi, même en région, et je peux en témoigner personnellement. Donc ça, c'est une idée fausse. C'est l'idée des grands journalistes qui, en quelque sorte, prennent toute la place par rapport
oui,
aux journalistes.
Quelques éditorialistes voilà. qu'on voit dans les plateaux de télé ou autre.
C'est pas ça le journalisme.
Qui n'ont rien à voir au quotidien.
C'est sur le terrain, voilà. Donc ça, c'est cette idée que je combats parce qu'elle est fausse. Maintenant, quelle est la bonne idée du journaliste? Eh bien, moi, je crois qu'il faut encore des journalistes. Et que les écoles de journalistes ont raison de former encore beaucoup, beaucoup de journalistes. Parce qu'il n'y a pas de liberté publique sans liberté de l'information. Si les journalistes disparaissent, eh bien, c'est l'information et c'est la démocratie qui est en très, très grand danger, je vous le dis. Mais ça, malheureusement, c'est comme l'air qu'on respire. Tant qu'on respire l'air, les poumons se remplissent. Le jour où l'air n'est plus là, on s'asphyxie. Et il faut éviter que cette asphyxie touche notre pays, touche la planète entière.
Il ne faut pas aller très loin d'ailleurs, y compris en Europe, pour voir des phénomènes où les pouvoirs autoritaires s'attaquent aux juges et aux journalistes. Eh bien, je vous remercie, Dominique Anthony, de votre contribution à la bonne connaissance par nos auditrices et auditeurs du monde des journalistes. Et donc, peut-être à une prochaine fois. Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.